One, two, three, four. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre heure de vie lausannoise dans ce grand direct. Je suis très heureux de vous retrouver ce mardi 24 avril pour un nouveau numéro. Nous allons parler ce soir de graffiti, de droits de mobilité, de migrants et de cinéma. Mais nous allons commencer avec toi Ségolène, bonsoir.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Nous allons vivre à Lausanne, nous allons vivre quelque chose aussi puisque nous allons aller direction la Sala pour un festival de graffiti.
Oui, donc ce soir on va parler de la jeunesse lausannoise, des quartiers. Plus précisément, nous allons nous intéresser à des citoyens artistes discrets, généralement peu présents dans les médias, mais dont la population lausannoise peut côtoyer les œuvres tous les jours, que ce soit en passant sous un pont, à travers une ruelle, dans une rue ou encore dans une bouche de métro.
Magnifique, de quoi découvrir tout cela dans quelques instants, juste après ce sommaire. À 18h20, ce sera La Rose des Vents avec toi Daniel, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Nous allons parler ensemble d'un rapport plutôt édifiant sur les droits de la mobilité aux personnes migrantes.
Alors un rapport qui permet de mettre en perspective toutes les tensions en fait que peuvent rencontrer différentes personnes issues de la migration. Ce rapport édifiant, comme vous le dites, comprend trois volets. Et ce soir, nous parlerons donc de la première partie, intitulée « Des frontières de sable, d'eau, de violence et de papier ». Première partie donc de ce rapport publié en 2017.
Voilà, donc on décrypte tout cela ces prochaines semaines et on commence ce soir dans La Rose des Vents. Et puis, à 7h20, ce sera « Cultiver Lausanne » et ce sera avec toi, Anouche. Bonsoir Anouche.
Bonsoir Fabien.
Nous allons parler ensemble, on se partage le micro avec Anouche ce soir, nous allons parler ensemble du programme du cinéma Oblo que tu as décrypté pour nous.
Oui, tout à fait, on va parler du cinéma Oblo, c'est un lieu, un cinéma alternatif et on a des invités et ils ont préparé des surprises pour les Lausannois, pour les cinéphiles, donc il y a beaucoup de choses à découvrir.
On découvre tout ça dans quelques dizaines de minutes puisque ce sera à 7h20 avec toi Anouche. Le festival, donc c'est le Sala Urban Jam, le rapport du collectif Jean Dutoit sur les droits et la mobilité d'immigrants et puis le programme du cinéma Oblo, c'est le programme de cette 143e édition du Grand Direct. Je sais pas si je vais y arriver ce soir, mais enfin bon, on va se concentrer un petit peu. Voilà, une émission à écouter comme chaque semaine sur radio.django.fm et sur La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h si j'y arrive. Bienvenue à vous dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et dans la rubrique Vivre à Lausanne ce soir, nous allons parler des quartiers et de jeunesse lausannoise à travers la prise d'un art urbain, souvent snobé par le milieu artistique bourgeois, ou alors peut-être mal compris, ça dépend, mal compris par le grand public et puis les médias aussi, nous dit-on. Cet art, c'est celui du graffiti. Ce sera également l'occasion de parler du Sala Urban Jam qui aura lieu le vendredi 11 mai. Et puis, à cette occasion, nous recevons l'un des initiateurs de cet événement, faisant la part belle au graffeur. On va le recevoir d'ici quelques minutes, mais à nos côtés nous a rejoint José. Bonsoir José.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes un spécialiste bien connu dans le milieu du graphe lausannois. Merci beaucoup d'être avec nous et puis on va essayer de parler ensemble de cet art et de mieux comprendre tout ça. Et puis avec toi Ségolène.
Oui, alors bonsoir José. Donc, je vous propose qu'on commence par déjà définir ce que c'est un graphe, un graffiti. Et alors, quelle est la différence avec un tag, en fin de compte?
Alors, le graffiti, ça a apparu au fin des années 60, début des années 70, entre Philadelphie et New York. C'était les gens qui écrivaient leur nom, leur pseudonyme sur les murs. Et au début, les simples écritures, c'est des tags. Puis dès qu'il y a des milliers de tags, on ne les voit plus. Donc du coup, on commence à remplir, à détourer les tags avec d'autres couleurs, à rajouter des volumes, des effets. Et c'est comme ça qu'un peu le graffiti s'est un peu construit, quoi.
Et comment cet art ou cette mode, je ne sais pas comment vous décrivez plutôt ça comme un art ou une mode, est arrivé à Lausanne?
Je ne sais pas si c'est de l'art, je ne sais pas si c'est de la mode. C'est plus un cri du cœur de « j'existe ». Parce que déjà, à l'époque, au temps des cavernes, les gars, ils faisaient déjà des graphes, quoi. Ils n'avaient pas de spray. Du coup, ils devaient se fabriquer leurs pigments et tout. Donc, du coup, il y avait déjà cette trace d'écrire, même au temps des Romains, d'écrire « je suis passé par là », ce qui nous passe par la tête. C'est arrivé à Lausanne, à peu près dans toute la planète, parce qu'en fait, ça, le mouvement est né à New York. Mm-hmm. Et puis, au début des années 82, 83, du coup, il y a eu un ou deux films qui ont été réalisés. Aussi bien des films hollywoodiens qu'un peu des films un peu plus documentaires, dans Style Wars, Wild Style, Beat Street. Et puis, c'est passé au cinéma, quoi. Et du coup, les jeunes, un peu dans toutes les grandes villes, ils ont reçu l'impact visuel au même temps avec la musique, avec tout. Donc, du coup, nous, on a connu le paquet avec le graffiti, le break, le rap, alors qu'il y avait même plein de graffeurs qui n'écoutaient pas du tout de rap, qui ne faisaient pas de break. Mais nous, on a reçu ça à travers un peu les films. Donc, du coup, simultanément, que ce soit Amsterdam, Paris, Lausanne, Madrid... partout, début des années 80, ça a apparu ce phénomène. Les jeunes ils se sont pas mal identifiés à ça. Et depuis, ça n'a pas cessé. Quoi. D'ailleurs, maintenant, au fond de l'Inde, il y a des graphes partout. Quoi, du coup.
D'accord. Et au début des années 80, quelles étaient les revendications de cette jeunesse lausannoise?
Je pense que surtout...
C'était une manière de s'exprimer simplement
oui, ou... c'est d'exister, d'avoir une... déjà, tu prends un pseudonyme, déjà, tu ne marques pas ton vrai nom parce que ça t'a attiré des problèmes. Et puis finalement, tu as une sorte de reconnaissance d'un microcosme, en fait, que très peu de gens ils connaissent ton pseudonyme. Et puis ils voient, ah tiens, il a tagué là, il a fait un graphe là. Et puis du coup, c'est ça, c'est un peu cette émulsion-là cette ferveur qui nourrit en fait un peu les personnes aussi, quoi, parce que finalement ils ne font pas trop de publicité parce qu'ils ne peuvent pas vraiment affirmer que c'est eux, mais que les gens ils connaissent leur pseudonyme, c'est ça, c'est un peu cette fierté. Puis plus c'est dur, plus t'en fais, et puis plus les endroits sont inaccessibles, plus tu gagnes en notoriété, on va dire, quoi.
D'accord. Jérémy me parlait l'autre fois d'adrénaline. Il y a aussi ça qui rentre en compte.
Voilà, parce qu'en fait, à la base, on va dire que le graffiti, c'est des lettres et illégalement, quoi. Donc, écrire son nom ou t'as envie d'exister, quoi. Devoir demander à chaque fois est-ce que je peux être là, quoi.
Parce que le côté, effectivement, c'est illégal. Vous êtes déjà fait attraper
Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais.
José, est-ce qu'il y a aussi, déjà à l'époque, au début du mouvement, il y avait un peu ce côté art populaire, art de la rue, VS, art bourgeois qu'on contemple dans des galeries ou dans des musées, et puis...
Oui. Du coup, à la base, je pense que quand ça commençait, c'était plus d'exister. C'était pas forcément de l'art, c'était pas commercial, il y avait pas tout ça, quoi. Mm-hmm. Mais au début des années 80, c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine d'années de pratique, les gens, ils ont commencé à s'intéresser, deux ou trois galeries qui ont commencé à les exposer. Et ce qui a fait que du coup, il y a plein de gens, comme vous dites, bourgeois, qui ont commencé à s'intéresser au graffiti. Et du coup, ça crée tout un phénomène. Et maintenant, on arrive au stade que de passer des pestiférés qui faisaient peur aux gens. Les gens, ils vendent des tableaux à 30, 40 000 euros. Puis du coup, ça devient une spéculation. Du coup, on ne s'intéresse même plus à l'artiste ou à ce qu'il a fait, mais plutôt à la valeur marchande qu'ils vont pouvoir... obtenir en vendant, en faisant des expos avec tel artiste. Et puis, du coup, ça reste quand même assez fermé comme milieu. En tout cas, tout ce qui serait milieu de l'art, quoi. Puis après, il y a les gens du peuple qui écrivent toujours leur nom et puis qui refusent de rentrer un peu dans des biais commerciaux dans ce sens-là, quoi.
Et dans Lausanne, donc on a plusieurs graffeurs qui se réunissent pour faire des graffitis, qui font de collabs, et on appelle ça des crews. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça marche?
Il y a des crews là, qu'on peut appeler ça, quoi. Et puis c'est vrai que ça, c'est un peu comme des groupes, c'est comme une équipe de foot, quoi. Tiens, il y a les gens, ils veulent défendre telle couleur, ils se mettent ensemble. Après, ça peut être par affinité, parce qu'ils sont amis d'enfance, après parce qu'ils veulent la notoriété, du coup, ils essaient d'être les meilleurs entre eux, plusieurs choses. Après,
et tout le monde se connaît à Lausanne?
C'est une petite ville, donc du coup, il y a une majorité des gens qui se connaissent, quoi, une partie, mais c'est impossible de connaître en fait tout le monde. Parce que comme c'est quelque chose qui est assez clandestin, qui est fait la nuit, l'illégalité, les gens, ils ne veulent pas qu'on s'attire des problèmes. Puis ici, les gens, ils parlent assez facilement, donc du coup, ça fait vite des problèmes, quoi.
Vous, José, vous êtes né à la fin des années 70, début des années 80.
Ouais, milieu des années 70.
Ouais, milieu des années
75, 70. 75, c'est pile poil, quoi.
Donc vous êtes plutôt old school, c'est ça?
Ouais, on va dire ça comme un compliment.
Les jeunes maintenant entre 13 et 18 ans, on va dire ça comme ça, qui sont graffeurs. Donc vous avez vu une évolution. Vous venez de nous en discuter. d'en parler, pardon. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes graffeurs actuellement?
Alors, c'est vrai que moi, je fais partie de la deuxième génération, vu que les premiers ont commencé en 83, 84. Moi, j'ai fin des années 80, 89. Maintenant, les jeunes, ils ont d'autres repères. Aussi bien, nous, on essaie de perpétuer un mouvement qui est d'après un peu les bases, après les handbooks qui étaient sortis et puis un peu les films. On interprétait ça comme d'après ce qu'on avait vu, quoi. Par contre, maintenant, les jeunes avec Internet, du coup, ils sont un peu plus largués, quoi. Ils n'ont plus les mêmes valeurs que nous, ils n'ont plus les mêmes bases, ils n'ont plus les mêmes repères. Aussi bien où nous avons ressemblé à quelqu'un, un autre graffeur, parce que c'était la pire des choses qu'on pouvait faire, parce que c'était copier, puis copier, c'est un truc de toy, ça ne se fait pas. Maintenant, au contraire, quoi. Les gens, ils se copient allègrement, ils s'inspirent des tendances, ils voyagent de style, ils changent souvent de style, tandis qu'avant, un graffeur, il a son style, c'est sa marque de fabrique, c'est son écriture, quoi. Et maintenant, les gens, ils sont plus dans la consommation à outrance, donc du coup, ils consomment des styles, ils consomment des choses. Et puis, y a pas mal de valeurs qui sont perdues en chemin, quoi.
Vous êtes encore beaucoup de votre génération à pratiquer?
Ouais, plus trop, quoi.
Plus trop, ouais. Les jeunes des quartiers, c'est un sentiment, je ne sais pas, ça vient de nulle part, mais j'ai l'impression que les jeunes actuellement, ils sont plus sur les réseaux sociaux, à avoir un mur, taguer sur ce mur, taguer des photos, et plus trop dans la rue à pratiquer le graphe. Est-ce que je me trompe?
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que maintenant aussi, maintenant le problème des jeunes, c'est que nous, autant on a un peu grandi sans tous ces réseaux sociaux, sans tous ces moyens de communication. Donc du coup, quand on se donnait rendez-vous, c'était une semaine à l'avance, il fallait venir. Là, les gens, ils peuvent changer 4 fois le rendez-vous parce qu'ils peuvent changer. Ils veulent avoir cette reconnaissance aussi des médias, que je ne pense pas forcément, des médias, des réseaux sociaux, un peu tout ça, que je ne pense pas que c'est forcément ce qu'il y a de mieux pour pour l'équilibre humain, quoi, parce que finalement ils font plus les choses pour eux, mais ils les font dans la destinée, dans le dessein d'avoir une reconnaissance. Et c'est vrai que ça changeait pas mal l'optique, quoi.
Mais José Ségolène faisait la réflexion à ce parallèle à l'instant, en fait, de taguer un mur ou taguer le mur virtuel des réseaux sociaux. Pour vous, il y a quand même un lien, il y a une ressemblance.
Il y a une ressemblance parce qu'il y a peut-être une certaine forme de reconnaissance. Après, de taguer des murs, évidemment, c'est illégal. Du coup, ça amène des gros problèmes par la suite. Et puis, c'est vrai que taguer le mur de chez lui sur Internet, je ne sais pas, sur son atel, il n'y a aucune conséquence. Et c'est les conséquences souvent qui... C'est comme on disait, de prendre des risques. C'est ça ce qui valorise aussi la chose, quoi.
Eh bien, nous a rejoint ce soir un des instigateurs de ce festival dont on va quand même aborder un petit coin hein, ce soir, Jérémy Gigon. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes animateur socioculturel au centre de Grand-Veine. C'est Ségolène qui vous a invité ce soir aussi parce que vous êtes co-organisateur en tout cas de cet événement, Salla Urban Jam.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu... Le 11 mai prochain, donc le vendredi de l'Ascension. Et puis, on aura plein de graffeurs locaux qui seront là sur la place de la Sala pour réaliser plusieurs fresques, en fait. On va installer des panneaux donc, sur cette place. Et puis, il y a des fresques qui seront réalisées par des artistes lausannois et qui vont rester en fait, sur la place pendant un mois.
Jérémy, donc on l'a dit, vous êtes animateur socioculturel. José nous parlait avant des graphes et comment ça se pratiquait tout ça et du côté illégal. Vous, en tant qu'animateur socioculturel, vous côtoyez les jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes? Allez graffer librement, allez vous exprimer comme ça ou bien vous...
Encouragez au crime.
Vous collaborez avec les autorités publiques qui vous disent, voilà, alors vous les jeunes, vous pouvez graffer sur ce mur et puis pas ailleurs.
Est-ce que je suis obligé de répondre? Non, mais disons qu'on a un rôle un peu particulier. Je suis pas non plus éducateur, je suis pas leur parent, donc c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire, mais plutôt de leur expliquer les conséquences de telle ou telle chose et aussi les possibilités qu'ils peuvent avoir en faisant du graffiti ou d'autres formes d'art. En
fait. Et pour vous, José, le fait que depuis quelques années, les autorités locales, délivrent des autorisations aux graffeurs pour aller graffer un mur, etc. à Lausanne, est-ce que ça entrave la liberté artistique? Est-ce que ça entrave de manière directe la liberté de l'artiste, selon vous?
C'est un peu compliqué. Disons que la ville, oui, effectivement, nous permet certaines possibilités. Qu'elle nous permet ces possibilités à coup de grands efforts de notre part et de patience et tout ça. Après, il y a certaines formes après, il y a certains endroits qu'on peut graffer librement, dont du coup, ça n'entrave aucune liberté artistique. Sur la vallée de la Genèse, Chaudron, on peut aller quand on veut, on fait ce qu'on a envie, tant qu'on ne fait pas de trucs trop hardcore. Et puis après, c'est une bonne chose d'une certaine façon qui donne des possibilités, mais après, ils ne pourront jamais vraiment contrôler le phénomène parce que, à nouveau, comme je disais, c'est un cri du cœur. Genre, les gens, ils ont envie d'exister, ils ne peuvent pas demander est-ce que je peux respirer ici ou je peux exister là. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment aller contre ça, quoi. Mais je pense qu'il y a moyen de faire passer ces idées de toutes les façons.
D'accord. Jérémy, vous organisez à Grande-Veine des ateliers graphes pour pré-ados et ados. Est-ce que ça marche autant qu'avant, que dans les années 80 ou 90
Disons que moi, je suis né dans les années 80, donc je ne saurais pas trop comment vous dire. Peut-être que toi, José, tu as plus de réponses là-dessus ou tu as peut-être fait des ateliers avant moi. Mais c'est vrai qu'actuellement, ça marche, mais comme une autre activité. Disons qu'il n'y a pas un engouement spécial pour ce qui est graffiti ou street art, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui vient après, quoi, plutôt autour de 18-19 ans, comme ça.
Juste une petite question encore, Jérémy. La Salaz Urban Jam, qu'est-ce qu'une jam, en fin de compte ?
Finalement, une jam, c'est comme dans la musique, on parle aussi de jam, quand plusieurs musiciens se rencontrent pour jouer ensemble. Pour le graffiti, c'est la même chose. Une jam, c'est quand il y a plein de graffeurs qui se retrouvent sur le même mur pour faire une composition, disons, à plusieurs. Quoi.
Donc là, ils seront 20 le 11 mai à la Sala. C'est des gens qui, je pense, qui connaissent, c'est des crews.
Ouais, c'est les 20 qui seront là, c'est des gens qui sont dans la scène locale et remontent depuis pas mal de temps. Donc, c'est des gens qui ont une bonne technique, une bonne expérience et qui envoient des choses visuelles assez intéressantes.
Et là, le grand public, les enfants, tant que les adultes, peuvent s'initier aux bases.
Ouais, alors pendant la journée, il y aura plusieurs ateliers. Il y a en fait l'association Cinématisme qui est une association plutôt basée sur l'illustration qui va faire un atelier avec les enfants parce que pour des plus petits c'est vrai que c'est quand même assez dur d'utiliser le spray, c'est même franchement la galère, donc on a décidé de partir sur quelque chose de plutôt autour du dessin. Et puis il y aura aussi un espace de libre expression pour les plus grands où là ils pourront justement essayer la bonbonne et on verra si ça marche ou ça marche pas, quoi.
Bon, on espère qu'il n'y en aura pas partout et que la place de la Sala sera améliorée et non pas tachée de tous les côtés. On rappelle cet événement, la Sala Urban Jam, ce sera le 11 mai, vendredi 11 mai à partir de 14h, place de la Sala évidemment. Cette initiative, c'est la vôtre, celle d'un collectif de nombreux artistes et puis de votre centre socioculturel de Grand-Veine. Donc on vous renvoie pour venir participer ce vendredi 11 mai à partir de 14h, place de la Sala. Merci beaucoup Jérémy Gigon.
Merci à vous, je voulais juste dire qu'il y a le centre d'animation de Bellevaux qui est aussi impliqué dans l'organisation.
Exactement, voilà, effectivement, merci de le rappeler, c'est parfait. On peut retrouver des informations sur votre site ou sur votre Facebook peut-être.
Alors le site du centre d'animation c'est www.legrandv.org. Et sinon, sur la page Facebook, Centre d'animation de Grand-Veine, vous allez trouver tout ça.
Voilà tous les liens pour partager également les résultats. Merci beaucoup Jérémy Gigon, merci également à José d'être venu ce soir nous parler de votre art, puisque vous êtes bien connu ici, semble-t-il, dans le milieu des graphes lausannois. Un sujet préparé par Ségolène, qu'on remercie et qu'on peut retrouver sur notre site www.django.fm, à réécouter et à partager évidemment sans limitation. Voici un peu de musique avant de partir sur La Rose des Vents.
That you've given me. Ooh. Did you never worry that I'd come to depend on you? Ooh. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Oh.
to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So
Radio Django et Radio La Fabrique Jamelia avec cette chanson Stop.
Radio Django, la rose des vents.
18h23 minutes dans ce grand direct, ce soir dans la Rose des Vents, il est question de parcours migratoire, de perspectives d'accueil et d'humanité, pardon, thème que nous allons reprendre en détail ce soir et disséquer au cours d'une série également ces prochaines semaines avec des membres du collectif Jean Dutoit. L'occasion de mettre également en perspective en trois volets les enjeux des phénomènes migratoires abordés dans un document phare publié par ce collectif. En novembre dernier, c'était en novembre donc 2017, le rapport pour les droits de la mobilité des personnes migrantes noires africaines en Suisse et en Europe. C'est avec toi, Daniel, qu'on va en parler ce soir.
Absolument.
Alors avant de découvrir ce rapport, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots sur ce collectif Jean Dutoit ?
Alors le collectif Jean Dutoit donc, est né en 2015 à Lausanne, à l'issue d'une rencontre entre un groupe de citoyens suisses et des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest. Le collectif s'est formé dans le but de trouver un toit pour ses membres africains. En 2014, ces personnes migrantes déboutées de l'asile ou des cas Dublin cherchent refuge au Sleep-In, un lieu d'hébergement à Basseuil à Renon. Faute de place et en raison de leur statut, ces personnes ne peuvent pas être hébergées, mais la maison tolère qu'elles s'installent dans le jardin. Les mois passant, de nouveaux migrants arrivent jusqu'au moment où les autorités décide de faire évacuer ce lieu. Moment de tension qui relève en fait des tensions sociétales entre une mouvance citoyenne qui se veut solidaire et une politique migratoire de plus en plus restrictive. Indignés, des habitants de la région de Renon se mobilisent pour ces migrants et forment le collectif Jean Dujardin, qui deviendra par la suite le collectif Jean Dutoit. Depuis 2015, la lutte continue sans relâche pour le respect de la dignité, des droits fondamentaux de ses membres résidents.
Mais alors, qui sont les principaux acteurs de ce collectif, Daniel ?
Alors, le collectif se compose de membres résidents issus de la migration qui habitent la maison occupée par le collectif, un immeuble de Lausanne, et des membres d'Interface. Ces derniers participent activement aux réunions hebdomadaires de la maison. Ils ont un rôle d'interface, de relais avec la société locale, comme les propriétaires, les autorités publiques, les gens du quartier et les médias. Ensemble, ils tentent de construire des alternatives viables pour répondre à des besoins fondamentaux et lutter contre les discriminations et les abus qui touchent les migrants, notamment d'origine africaine, dans un contexte de nationalisation de droits et une racialisation ambiante.
Mmh. Dans quel état d'esprit s'inscrit ce rapport publié par le collectif, on l'a dit, en novembre 2017 ?
Alors, ce rapport répond avant tout à la nécessité de comprendre le monde qui nous entoure et de replacer l'humain au cœur des échanges face à des politiques migratoires de plus en plus restrictives et dans un contexte de montée des nationalismes. Ce document questionne un monde globalisé mais non unifié. En Suisse comme ailleurs en Occident, on se sent peu concerné par la réalité des autres, ceux qui migrent dans l'espoir de trouver des lendemains arc-en-ciel. Un premier volet nous permettra d'ailleurs ce soir de comprendre pourquoi et comment des Africains qui constituent le collectif Gens du Toit sont arrivés à Lausanne. Première partie de cette publication intitulée « Le rapport pour les droits et la mobilité des personnes migrantes noires africaines » en Suisse et en Europe.
Donc une série que nous allons vous proposer ces prochaines semaines au sein de ce grand direct de Radio Django. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux membres du collectif. Tout d'abord, Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Et à vos côtés, John, bonsoir.
Bonsoir.
Tous deux, Hélène et John, avec des prénoms d'emprunt. Hélène, peut-être pour commencer, comment s'est construit ce rapport dont on parle ?
Ouais. Du coup, je pense que quand on lit le rapport, on peut se rendre compte du fait que le rapport est très cohérent et qu'il y a un style qui revient tout au long du rapport. Du coup, on peut se dire que cette forme a été mise en place par une plume unique et acharnée, on peut le dire, vu que c'était un travail énorme. Du coup, c'est vraiment une personne qui a écrit le tout. Mais après, le fond est vraiment un travail on ne peut plus collectif, du fait qu'en fait, le rapport a été écrit 2 ans après la formation du collectif, qui sous-entend bien sûr 2 ans d'échanges d'expériences, de constats, de confrontations politiques, qui ont fait que déjà à la base, tout ce qu'on a vécu est collectif. Et du coup, quand on le sort par écrit, c'est collectif. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a, pendant 7 mois, on a vraiment fait chaque semaine un meeting où chaque aspect du rapport était mis devant toute la maison. Et travailler avec toute la maison.
Donc c'est vraiment un compte rendu, si on veut, de toutes ces rencontres, de tous ces moments de retrouvailles, de discussions, de partage, d'événements qui se sont passés, qui sont mis par écrit dans un document.
Oui, je pense que ça va un peu plus loin que ça en plus, vu que c'est quand même un constat politique de la réalité que traversent les gens qui habitent au sein de la maison, mais qui traversent énormément de gens en fait.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de ce travail d'écriture collective, ouais, justement avec les membres d'Interface et les membres résidents.
Oui.
Alors John, dans un contexte marqué par l'idée que le destin des pays du Sud plane sur le monde, qui devrait lire ce rapport et pourquoi ?
John, for you, who should read the report and why ?
We expect everybody to read our report because, especially the youth, let the youth read our report so that they will know how we feel and how we are. It's not the way they see, then tell them about us, it's the way we are. So that afterward they read the paper, that we know that, yes, these people is not really the way they tell us about them. That is how they are. So we need everybody to read the book.
Hélène,
ouais,
du coup, vous laisse traduire.
Ouais, il a dit que pour lui, il fallait que tout le monde lise ce rapport. Et il plaçait la priorité sur la jeunesse. Je pense que c'est le futur et qu'il faut absolument que ces jeunes rencontrent leur jeunesse à eux et qu'ils cassent les préjugés que tout l'environnement met dans leur tête en fait pour que ces rencontres soient possibles.
Mais est-ce que vous pensez, John, que les jeunes en Suisse sont assez politisés pour s'intéresser à ce rapport?
But she asked, do you think the youth of here is enough engaged in politics to have the interest to read this report?
If they can be able to read it, if they like to read it, I believe that the report is for everybody. If the politician can be able to read it, let them understand our feeling, know what we are up to. I believe that we wish them good luck to read it. Let the politicians especially read it and see how we feel and what we stand for.
Tout le monde peut lire ce rapport. qu'en tout cas, il leur souhaite bonne chance pour le lire et qu'il a ajouté aussi que les politiciens devraient le lire pour
tout à fait leur rapport. Donc, ce serait une impulsion collective qui aurait du sens. Mmh. John, qui sont les membres résidents?
Who are the people living in the house?
The people that live in the house is people from West Africa, especially. The people that their country, our country is not okay. We have a very big problem, but because of politics and some things they are saying about West Africa, so some certain times we hear that, yes, if they want to deport anybody from West Africa, they will tell us that, yes, West Africa is okay, Nigeria is okay, Cameroon is okay, other places, Gambia is okay, but they are not okay. I believe that if they can be able to send a delegate to that place and verify and see what we are going through. We are dying every day. They are killing us every day. So I believe that if they can be able to go and find out what is wrong with these people and who are those people that are killing these people, what they need for them to do for us.
Du coup, il a commencé en disant que les personnes qui résident dans la maison des Sauges actuellement sont des personnes qui viennent majoritairement de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des pays considérés par la Suisse comme des pays sûrs, du coup, où c'est totalement possible de renvoyer les personnes dans ces pays, alors qu'il dit qu'il faudrait envoyer des délégués là-bas pour se rendre compte de la réalité de ces pays. Donc il parle principalement du Nigeria, du Cameroun, mais de la Gambie également, où il dit que des gens meurent tous les jours là-bas et qu'il y a des situations politiques insupportables et qu'il trouve... Bon.
Mais je pense que ce serait aussi intéressant de comprendre en fait que dans les membres résidents, il y a aussi en fait ces personnes qui sont arrivées en Espagne, qui ont été une main d'œuvre économique bon marché qu'on a jetée dehors, et qu'il y a les jeunes. Et qu'est-ce que pense John finalement de ces deux profils qui cohabitent au sein de la Maison des Sauges?
She said that in what you heard inside the house, there is two kind of generation inside the house. There is the first people that left West Africa to come and that take the first word to arrive in Spain and that found work mostly in Spain, but that had to go out of Spain because of the crisis, the European crisis, and also the more youngers that left in the last years and that came directly to Italy and to Europe. What do you think about this, like about the fact that there is these two generations?
I believe that this, our generation, is what I know about. This, our own generation, is what I know about. I know maybe the people that came during maybe last generation, I didn't know about them, but this, our generation, with the way we feel, the way we see things in Europe, is not the way we think about Europe then. Some people, and we came through Italy, France, Spain. We, because of the situation of what they are going through for that place, because there's no place to find a living, a better living. So many people hear about Switzerland that, yes, because we ourselves, we hear during our war, during the war of Nigeria Civil War, we hear that, yes, Switzerland is a better place because they are the one that sent a Red Cross helper for us. So we believe that, yes, this way, Switzerland is a kind of a place of peace and loving people. That if they can be able to help our forefather during the war, I believe that they can be able to help us the way we see it. That's why we are in Switzerland.
Ouais, du coup, il a Hélène. Commencé par parler du fait que lui, il pouvait parler que pour sa génération, comme il dit, et que c'est une génération qui a débarqué en Europe, principalement en Italie, en Espagne et en France aussi. Et qui ont fait face au constat de l'absence totale de moyens de survie dans ces endroits. Ce qui fait, enfin, comme tout
mais
le monde le ferait.
Trouvais important.
Il a parlé d'autres choses aussi.
Allez-y.
Pardon. Du coup, ils ont dû partir de ces pays pour aller plus loin, comme n'importe qui l'aurait fait. Et que c'est drôle parce qu'il a évoqué le fait que pendant la guerre du Biafra au Nigeria, tout le monde parlait de la Suisse comme étant la patrie de la paix, parce qu'en fait c'est la Croix-Rouge en fait qui est venue aider en premier pendant la guerre du Biafra. Donc ils entendaient parler de la Suisse et qu'il y a des personnes qui sont venues en Suisse en se rappelant de ça en fait, et puis qui font face à une autre réalité.
mais je trouvais intéressant de souligner le profil des membres résidents dans ce sens où on se rend compte qu'en Europe, quand on a besoin de la main-d'œuvre bon marché, on fait appel justement aux personnes originaires d'Afrique. Et quand à un moment donné, l'économie s'effondre, on met tout le monde dehors, tout simplement. C'était juste une remarque. Pour bien comprendre le contexte, la plupart des membres résidents sont arrivés en Suisse sans visa. Hélène, quels sont les principaux obstacles administratifs rencontrés justement par les membres résidents et quelles sont les conséquences?
Du coup, il y en a énormément. On peut peut-être commencer par ça. Et peut-être que, d'après moi, ils commencent dès le passage de la frontière, où principalement, pour cause du fait que c'est des hommes noirs qui traversent la frontière, il y a une espèce de tri qui commence à ce moment-là, où les douaniers vont focaliser sur eux et vont les mettre face au fait qu'ils doivent soit partir de d'où ils viennent, soit demander l'asile. Qui se fait de moins en moins, en fait. Maintenant, les douaniers, ils ont tendance à rejeter les gens sans même leur demander s'ils veulent demander l'asile ou pas. Du coup, ça commence là. Après, dès le moment où une personne va demander l'asile, ça va être le service d'immigration, donc à Berne, qui va s'occuper d'enquêter sur le cas. Et ce qui va se faire, en fait, pour la plupart des jeunes hommes noirs, de nouveau, qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'autres pays qui suivent le même fast track. Donc, c'est une procédure vraiment accélérée qui va déjà considérer en regardant le database européen si la personne a déjà ses empreintes dans un autre pays européen, lui donner une non-entrée en matière et le renvoyer en Italie, en Espagne, en Grèce. Donc ils viennent sans même pousser l'investigation pour savoir s'il a besoin d'aide qui est possible dans ces pays. Et puis, L'autre choix, c'est s'ils se rendent compte que la personne a ses premières empreintes en Suisse, ça va être de considérer son pays d'origine comme un pays sûr la plupart du temps, que ce soit, comme on le disait avant, le Nigeria ou la Gambie, et de le débouter de l'asile, de lui donner une non-entrée en matière qui va le faire devoir demander l'aide d'urgence comme dernier moyen de
support. Comme dernier support. Donc on se rend compte que finalement, on est vraiment face à un processus de filtrage. Est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer pour quelles raisons, finalement, pris dans cette spirale, certains migrants préfèrent se perdre dans la nature plutôt que de demander l'aide d'urgence?
Je pense que, justement, le système de l'aide d'urgence, c'est principalement un système de contrôle et de dissuasion et de fatigue. Je pense que la fatigue, c'est le mot le plus important. Pour des choses très concrètes, quand on est à l'aide d'urgence, on se fait loger dans des bunkers. On reçoit des sommes d'argent qui sont insuffisantes pour survivre. Et on doit aller pointer au stop, au service de la population, du coup. À peu près, ça va de une fois tous les deux jours à une fois par mois pour renouveler ce qu'ils appellent le papier blanc qui est l'aide d'urgence. Et il y a une réalité au service de la population dans ces moments qui est vraiment une pression énorme. Où les gens reçoivent des menaces, où ils attendent pendant des heures, où il y a tout cette espèce de mécanisme pour fatiguer les gens, pour qu'ils partent par eux-mêmes, en fait. Et puis,
c'est une politique de pression, en fait.
C'est ça, dissuasion.
De dissuasion, absolument. John, finalement, comment s'organise le quotidien des résidents, donc des membres résidents, pardon? Et est-ce que vous avez des lieux où vous pouvez vous ressourcer quand à un moment donné, vous êtes usé par le système?
And how is the daily life for the people that that live in the house? And is there some places inside town where people can just rest their head, like when they are facing all the time so much stress?
We are facing people that are living in both town, the house. They are facing a very big stress because they don't have a place to rest. Even you want to eat, a place to eat. Some days or restaurants we're supposed to. Sometimes we go there, we rest, we eat food there. We want to eat a better food, an African food. Is that a place that you can be able to find a food, an African food to eat? But unfortunately, they have already closed it. We didn't have any places, many places, but nearly the whole restaurants we normally used to go there and rest. You want to eat, I find African food to eat. They have nearly closed, let me say, nearly all of them. They have already closed many of them. So we find it difficult for us to find a place to rest or we want to go and eat. It's very difficult for us to do, except sometimes you will see some people running about the street. But when the time when there's all this shop is there, if you want to eat, you can be able to go there and eat. After you eat, you can rest a little bit before you know. But now you can't find a place like that anymore. So they have already closed many places like that.
Hélène, s'il vous plaît.
Là, il raconte que ben, déjà, les gens doivent faire face à énormément de stress. Enfin, c'est des personnes qui sont traquées à longueur de temps. Et il évoque le fait qu'en fait, avant, il y avait beaucoup de restaurants ou d'endroits comme des clubs où il y avait justement l'opportunité pour les gens de pouvoir se reposer, de pouvoir manger de la nourriture qui les rassure, en fait, et d'avoir un endroit où il n'y a pas besoin d'être avec des blancs, où il n'y a pas besoin d'être avec de faire face à la police ou tout ça.
D'être dans une forme d'entre-soi, en fait. D'accord.
Ouais, de repos. Enfin, vraiment, de repos. Un espèce de repos, de refuge. Et puis, il disait que, et c'est vrai, on l'a constaté ces trois dernières années, un peu qu'il y avait vraiment une politique de fermeture de tous ces lieux. En fait, il y a eu, je pense bien, 5 restaurants, un club qui ont été fermés les uns après les autres, un peu dans une volonté vraiment politique de briser les zones refuges, en fait.
Mais donc, l'idée, c'était en fait de fermer ces lieux, mais sous des faux prétextes, parce qu'ils ont quand même dû pouvoir légitimer la fermeture de ces lieux.
Oui, d'accord. Du coup, je ne sais pas si...
2 minutes.
Bah oui, en quelques instants.
Bah, je pense qu'il y a eu 2 cas qui étaient vraiment très forts, où ils ont invoqué le trafic de drogue, en fait, pour fermer les lieux avec des opérations policières monumentales, enfin, vraiment un truc médiatique, et puis où finalement, ils ont trouvé très peu de matériel. Mais oui, du coup, le lieu a fermé pendant... jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Coup,
donc, fermeture, en fait, de ces lieux où les gens peuvent se ressourcer. Et en plus, on se rend compte que Lausanne et d'autres villes refusent finalement les villes-refuges, un sujet qu'on abordera une prochaine fois.
Les frontières de sable, d'eau, de violence et de papier. Première partie de ce rapport publié en 2017 par vous, le collectif Jean Dutoit, qui, on le rappelle, que les dernières statistiques de la migration, derrière les statistiques, il y a également des humains. Et si certaines personnes peuvent bénéficier du droit d'asile, d'autres, déboutés, se retrouvent dans des situations de non-droit. Daniel, pour conclure, la Suisse reste finalement une terre d'asile à géométrie pour le moins variable.
Tout à fait, Fabien. Ce rapport montre que nous sommes loin donc d'une image idyllique de la Suisse, terre d'asile et d'hospitalité. Un régime de droit différencié entraîne des solutions de blocage qui touchent particulièrement les personnes déboutées de l'asile, blocage administratif, géographique et psychologique. Dans ce contexte, certains droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale suisse sont violés. Et face à ces dispositions iniques, des citoyens suisses et non suisses ont décidé donc de se mobiliser et d'agir en créant le collectif Jean Dutoit.
Voilà. Un rapport dont on va continuer à parler ces prochaines semaines sur Radio Django. On va vous le décrypter encore au travers de 2 volets. On parlera notamment de la discrimination et de la répression qui touche notamment les membres résidents. Tout ça, ce sera pour le prochain sujet, normalement la semaine prochaine, voire les semaines qui suivent. Merci beaucoup à vous, Hélène, d'être venue ce soir nous parler de ce collectif.
Merci à vous.
Merci beaucoup et également merci à John d'être venu nous en parler ce soir. Merci à Daniel pour la préparation de ce sujet, de cette série. Une série que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm. Techno Miles Wash sur Radio Django pour conclure cette rose des vents de ce mardi 24 avril.
Radio Django, culture.
18h47 sur Radio Django, on passe à Cultiver Lausanne avec toi Anouche, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Et tu nous as rejoint ce soir pour parler du programme du cinéma Oblo.
Tout à fait. Cela fait 15 ans que le cinéma Oblo a été ouvert par des bénévoles, toujours à l'avenue de France 9 à Lausanne, à proximité de la place Chaudron. Cet endroit culturel accueille à plusieurs fois par semaine, sous son toit, une cinquantaine de cinéphiles pour découvrir différents films en anglais, en français ou en allemand.
Et puis, nous avons appris que le cinéma Oblo a préparé deux jolies surprises pour les Lausannois.
Exactement, c'est pour ça qu'on les reçoit ce soir, Fabien. Comme tu viens de dire, les deux prochains vendredis, 27 avril et 4 mai, on peut découvrir le cycle russe, d'ailleurs depuis le 13 avril dans cette salle alternative. Et à partir de 11 mai, le 18 mai, le 8 juin et 15 juin, ça sera un cycle italien.
Et puis, donc du cinéma russe, hein, pour ce qui nous concerne dans l'immédiat.
Oui, le cinéma Oblo, inspiré par la littérature russe, propose des films russes. Et chaque projection sera introduite par l'un des membres de la section russe de l'Université de Lausanne. Et le 27 avril sera présenté le manteau. Film muet réalisé en 1926 par Grigori Kozintsev et Leonid Troubert, deux réalisateurs russes. Et ce film est une tragicomédie excentrique inspirée par les nouvelles de Nicolas Gogol, La perspective Nevsky et le manteau. Et le 4 mai sera projeté Cœur de chien, c'est une œuvre de Mikhail Bulgakov. Réalisé par Vladimir Bortko en 1988. Le genre du film est science-fiction et comédie et ça dure 130 minutes.
Et puis, le cycle italien ?
Alors, les jours mentionnés sera présenté la Pivellina, le long métrage italo-autrichien qui est sorti en 2010. Et c'est un drame de 90 minutes réalisé par Tisakovi et René Frimel.
Pour en parler ce soir un petit peu plus en détail, quand même, on va faire, même si votre portrait à nous était tout à fait complet, on va en parler en détail avec nos invités ce soir. Agnès Lapozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. À vos côtés, à nos côtés, Nicolas Denzer, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes tous les deux bénévoles au cinéma Oblo. Comment est venue l'idée de présenter ces deux cycles comme connus dans le circuit commercial ?
La plupart du temps, les propositions du cinéma Oblo sont les fruits des rencontres et des envies qui se forment au fur et à mesure de nos réunions de comités, de nos soirées, etc. Et là, par exemple, le cycle russe, c'est une idée qui est née d'une rencontre au cinéma Oblo entre nous, les membres de l'équipe, et puis des collaborateurs de la section russe de l'Université de Lausanne.
Et Nicolas, d'où vient cet intérêt pour la littérature russe et pourquoi présenter ceci à Oblo ?
Alors justement, on a la chance d'avoir ici dans notre ville et dans l'Université de Lausanne des spécialistes de la littérature russe. Et il y a beaucoup d'adaptations au cinéma de la littérature russe. C'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. On connaît bien quelques grands classiques. Mais le cinéma russe et la littérature russe va évidemment bien au-delà de ça. Et puis le délire a commencé, si on veut, par la projection de Oblomov, qui est presque l'homonyme de notre cinéma, mais plutôt un antonyme quand on regarde qui est Oblomov, parce que c'est un personnage qui ne bouge pas, qui a peur du monde extérieur et qui est très mou, alors que le cinéma Oblo bouge et est ouvert à la rencontre. Et puis les deux films suivants ont été sélectionnés par les collaborateurs de la section russe de l'UNIL.
À votre avis, Nicolas Denzer, comment ça se fait qu'on connaisse peu cette culture russe chez nous ?
Alors, en matière de cinéma, c'est assez évident quelles sont les principales influences et quels sont les films qu'on peut voir dans la plupart des salles par ici. Évidemment, il existe du cinéma ailleurs qu'en Europe ou aux États-Unis. Et puis, heureusement qu'il existe des petites salles pour présenter des choses qui sont un peu hors des sentiers battus.
Et Le Manteau est un film muet.
Un film muet, oui.
Oui. Et est-ce que c'est facile à comprendre ? Il y aura une traduction, des sous-titres ?
Alors, c'est un film muet avec des cartons sur lesquels il y a le texte. Et ces cartons-là, dans ce cas, ils sont sous-titrés en français. Ouais.
Et est-ce que ce genre de film reste toujours intéressant et attirant pour le public ?
ça reste très intéressant.
On ne dirait pas le contraire, évidemment.
Il y a beaucoup de gens qui continuent de regarder du Charlie Chaplin, du Buster Keaton, etc. Mais pourquoi pas aussi regarder ces films-là. 1926, c'est quelques années après l'ouverture de la toute première école de cinéma du monde, à Moscou, justement. Et donc, le cinéma expressionniste russe a beaucoup de choses à dire aussi.
Malheureusement, on ne peut pas vous le faire forcément écouter, puisqu'à la radio, c'est un peu difficile de parler d'un film muet, mais voilà, le cœur y est, et puis vous pouvez retrouver la bande-annonce, évidemment, sur Internet.
C'est ça.
Agnès, la Pivelina, qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne sais pas. En fait, je ne me suis pas renseignée, mais dans le film, on comprend que c'est un peu le nom que le couple qui trouve cette petite enfant dans le parc, donc ça c'est un peu le pitch du film, c'est le nom que le couple va donner à ce petit enfant. Et donc c'est l'histoire de Patty et Walter, deux gens qui travaillent dans le cirque, dans la banlieue de Rome, en hiver, donc voilà, c'est pas la Rome qu'on peut s'attendre avant l'été. Ce couple trouve dans un parc à côté d'où ils habitent, dans une roulotte, un enfant abandonné, et puis ils vont le prendre avec eux dans la maison. Et c'est une histoire d'une rencontre, donc, et puis une histoire d'amour aussi. Et c'est raconté d'une manière très fraîche, très sobre. Et voilà, c'est un peu notre coup de cœur du comité.
Et on a trouvé la bande-annonce sur Internet qu'on vous propose d'écouter pour se faire une petite envie de ce film La Pivelina.
Trovato un biglietto in tasca alla bambina.
Sì, va bene.
C'è scritto di non andare dalla polizia, che se la viene a riprendere. Il biglietto è disperato. Proprio.
Sì, ma si sta mettendo in mezzo ai guai. Vai.
Quanti siete ad abitare qui?
Allora, io sono io e mio marito. Sì, no, la bambina è la figlia di mia nipote che mi ha lasciata per qualche giorno.
Aia,
cinderella,
cinderella,
ipipura, ipipura.
Voilà pour ce film La Pivelina, sorti en 2010, une production italo-autrichienne, Anouche.
Ce film a reçu beaucoup de distinctions. Comment expliquer ce succès? On a vu que ce film a gagné beaucoup de prix.
Oui, alors ce couple de réalisateurs italo-autrichiens, ils ont une manière particulière de travailler parce qu'ils s'inspirent par les histoires de leurs protagonistes qui sont des non-professionnels du cinéma. Et donc c'est leur premier film ou deuxième film dans le milieu du cirque. Ils vont en faire un troisième plus tard qui s'appelle Mister Universo. Et donc les histoires qu'ils racontent viennent de leur rencontre qu'ils ont fait en vrai avec une façon de travailler un peu documentaire. Mais c'est des histoires écrites de manière fictionnelle.
Quels sont les prochains rendez-vous qui sont prévus pour vous au cinéma Hublot, Nicolas Denzer?
Alors, à part le cycle russe 27 avril et 4 mai, et puis les quatre dates de la Pivelina, on aura une soirée consacrée à l'Érythrée le mercredi 16 mai. Une rencontre intéressante aussi entre des associations cyclistes lausannoises et des personnes qui s'engagent pour la communauté érythréenne. Avec films, discussions et cafés érythréens. Et le 25 mai et le 1er juin, des vendredis, on a un petit cycle de films sur des photographes avec Finding Vivian Maier et Duane Michaels, The Man Who Invented Himself, qui ont été sélectionnés par une photographe lausannoise, Anne Veufray.
Tous les liens et les informations sur votre site, j'imagine ?
Oui, qui va être mis à jour ces prochains jours parce que le nouveau programme paraît pour mai et juin.
Voilà, donc c'est une exclusivité que vous avez ce soir. Toutes ces dates et les détails, c'est sur Radio Django. Merci beaucoup Agnès Laposi d'être venue ce soir nous en parler. Également, merci à vous Nicolas Denzer. Très bonne soirée et puis bon programme de printemps-été pour le Hublot. On vous rappelle ces quelques dates, le 27 avril et le 4 mai avec les films russes et le 11 mai, 18 mai, 8 juin et 15 juin à 21h, le cycle de films italien. lien, toutes les informations à partir de tout bientôt sur votre site oblo.ch. J'en vous mets le lien également sur le nôtre avec le sujet à réécouter de ce soir, www.django.fm. Et merci à Anouche pour la préparation de ce sujet.
Merci à toi, Fabien.
Une bonne soirée. Voici un peu de musique avant de terminer cette émission.
I met my baby on the yes, baby. Well, I was riding on the train today. He said, Fräulein, wo ist der Zug Billett? I said, I'm sorry, but this honey, no. No, I don't. No, I don't. But you can have my Nata number if you want. I met my baby on the S, baby. Well, I was riding on the train today. He wore a sexy dunkelblauer Anzug. I got the fever from my head to my shoes. Can you pay? Can you pay? I said I'll pay you with my kisses any day. Everybody say choo-choo. Tonight when we go home, something's got a hold on me. Why am I such a drama queen? I always fall into this mess. The only thing that's left is stress. I met my baby on the yes, baby. While I was riding on the train today, I said for you I'd take a cherry pie. He said,
Frau Bottner, ich habe Frau und Kind hier.
Oh, not again, not again. Why do I always fall for these married men? Everybody say choo-choo, whoa. Choo-choo, whoa. Choo-choo, whoa. Choo-choo, whoa. It's such a shame, such a shame. I guess I'm gonna have to catch another train.
Mais oui, c'est une chanson de Train, elle s'appelle The True True, The SBB Song. Mais oui, c'est une chanson suisse, c'est Bradley Butler. On ne pouvait pas passer à côté sans vous la diffuser ce soir sur Radio Django. Le grand direct s'est terminé pour ce mardi. On vous a parlé de la Sala Urban Jam, du rapport du collectif Jean Dutoit sur les droits et la mobilité des migrants, premier volet d'une série de 3 épisodes. Et puis, à l'instant, c'était le programme du cinéma Oblo qui fait peau neuve pour ce printemps et cet été. Un menu riche et varié, mais équilibré qu'on vous a servi ce soir sur un plateau, celui de Radio Django et Radio La Fabrique. Tous les sujets sont à retrouver sur notre site www.django.fm. Un immense merci à Jonas à la technique ce soir. Pour ce qui est du programme de la semaine prochaine, eh bien nous allons notamment parler de la pause syndicale, puisque nous serons le premier mardi du mois de mai. Nous serons même le 1er mai précisément. Programme à suivre sur notre site à partir de dans quelques jours, www.django.fm, pour trouver les podcasts et toutes les informations complémentaires sur les sujets que vous entendez ici. Merci à toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes et à mardi prochain à 18h précise. Mais pour l'heure, il est 19h. Belle soirée à vous.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.